L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, la suite de l'atelier, ça sera notre dossier de l'atelier US. On va parler du chatbot à la Facebook. Vous savez que voilà, dans Messenger maintenant, on peut discuter avec des petits robots. Et puis, dans notre French Tech Tour, on fera un bilan de la première année, du premier anniversaire de la French Tech Côte d'Azur. Mais auparavant, notre passion selon Saint-Net, Lila, nous allons parler de mobilité.
Mais oui.
L'être humain, le corps en mobilité, en quelque
c'est
sorte.
C'est ça. Le transport de demain serait-il le corps humain ? Alors, on va s'y intéresser.
Alors,
avec
dit
un...
comme ça, c'est un petit peu, un petit peu énigmatique.
C'est un peu énigmatique. On va creuser le sujet avec un spécialiste, Georges Amard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Georges Amard, vous avez longtemps dirigé la prospective à la RATP. Vous êtes chercheur chez Mines Paris Tech et prospectiviste. Et vous venez de publier un ouvrage que vous avez baptisé Homo Mobilis, une civilisation du mouvement. Alors, qu'est-ce que vous appelez Homo Mobilis ? Vous, ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'on est en train de passer de l'ère des transports à l'ère de la mobilité.
Oui.
C'est quoi la différence ?
La différence, elle est, à la fois c'est la continuité, en même temps c'est un changement, un bouleversement complet. Le transport, c'est une espèce, une fonction, une commodité. Hein. En moyenne, quand on raisonne transport, on se dit ça nous prend une heure par jour, par exemple. Hein. La mobilité, c'est ce qui est devenu notre mode de vie. Nous vivons en mobilité. C'est-à-dire qu'on travaille ici et là, on a des rendez-vous à différents endroits. La mobilité, alors que le transport est une fonction particulière, un moment de la vie, la mobilité est devenue l'ensemble de notre mode de vie. Et en ce sens, les nouvelles problématiques...
C'est-à-dire qu'on peut travailler en mobilité dans son lit, par exemple.
Oui, dans son lit, ça. Ou au bistrot, plus généralement d'ailleurs. On n'est plus obligé d'être au bureau, on n'est pas obligé d'être à l'école pour apprendre. L'ensemble des fonctions de la vie, aujourd'hui, peuvent se faire beaucoup plus distribuées dans l'ensemble de la ville, l'espace et du temps, et non pas, comme c'était le cas, et comme c'est encore un peu le cas d'ailleurs, domicile-travail. Mais le transport, ça voulait dire aller d'un endroit à un autre. Ça veut encore dire ça, mais de plus en plus, cette fonction aller d'un endroit à un autre n'est plus qu'un aspect. Et beaucoup plus généralement, nous organisons notre vie de manière mobile, en allant travailler ici ou là, se distraire ici ou là. Et la mobilité devient notre manière d'être.
Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Ce changement vers l'ère à la mobilité ? Est-ce que c'est l'essor des smartphones, l'accès à l'information comme ça, instantané ?
Oui, il est vrai qu'en tout cas, les instruments de la mobilité ne sont plus exactement les mêmes que les instruments du transport. Tant qu'on vit dans le contexte, dans le cadre du transport, les instruments fondamentaux, c'est la voiture, c'est le train, c'est l'avion par exemple, c'est les véhicules, justement. La mobilité, le focus se porte davantage sur la personne. Et donc, on a de plus en plus les équipements de la personne mobile. Quand vous disiez, presque pour plaisanter, que c'est le corps humain qui devient le transport de demain, il faut entendre le corps au sens large, le corps avec ses équipements, avec son cerveau, et les équipements en quelque sorte modernes de la mobilité, c'est des bonnes chaussures, ça a l'air bête, mais la bonne chaussure urbaine est devenue un équipement très intéressant. Hein. Même si on regarde les chiffres d'affaires des vendeurs de chaussures, désormais la bonne chaussure urbaine, donc la chaussure, le smartphone évidemment, alors le smartphone est devenu, c'est assez paradoxal, l'instrument de la mobilité, c'est le smartphone aujourd'hui. Parce qu'il nous accompagne partout et parce qu'il nous permet de continuer à travailler, à communiquer, à se distraire, tout en étant dans différents lieux, différents endroits et différents moments.
Alors vous allez plus loin, vous dites on ne n'est pas mobile, on le devient, ça veut dire quoi ? Qu'on va devoir apprendre à être mobile comme on apprend à marcher ?
Oui, c'est presque comme une nouvelle alphabétisation, disons. Hein. De même qu'on peut difficilement aujourd'hui vivre dans la société contemporaine sans savoir lire et écrire, on parle même aujourd'hui de l'alphabétisation numérique d'ailleurs. Ça devient des compétences nécessaires pour être inscrit dans une société. Savoir bouger, alors justement un savoir bouger généralisé. Il ne suffit plus de savoir prendre son métro pour aller d'un point A à un point B. Il faut avoir tous les moyens à sa disposition. Donc là, vous voyez, la compétence urbaine devient une compétence à bouger de beaucoup de façons différentes. Et en un sens d'ailleurs, le nouveau service à offrir, si on raisonne en termes économiques, hein, c'est quoi le nouveau service de la mobilité ? C'est d'augmenter les compétences à la multimodalité, en quelque sorte. Hein. Être capable de faire du vélo, de la voiture, etc. Et tout ça s'apprend. La mobilité est devenue une compétence, voyez. On est compétent ou pas compétent, ou très compétent ou pas. Et en général, d'ailleurs, on n'est pas assez compétent.
Est-ce que assez platement, ça correspond également à savoir utiliser vraiment une application, l'application de la RATP, on ne connaît pas forcément toutes les fonctions, tous les filtres possible. Est-ce que ça rentre là-dedans
Oui, bien
sûr. Est-ce qu'on peut être illettré de la mobilité intelligente?
Absolument. Oui. Alors, en effet, on a besoin d'avoir des tas d'instruments. Alors, en vérité, non seulement il y a bien sûr celui de l'RATP, mais bon, Google Maps est devenu en quelque sorte l'instrument indispensable de toute mobilité. Pour venir ici, jusqu'au studio, je me suis servi. Je ne pouvais pas ne pas m'en servir. C'est à un point où on ne peut plus s'en passer.
Comment on faisait avant? C'est ça la question.
C'est l'énigme.
Non, mais souvent, on se pose cette question. On se dit, mais comment on faisait avant? Et pourtant, on arrivait à se déplacer. Mais peut-être pas aussi de manière efficiente. Voilà.
Oui, c'est ça. On prenait des marges, on se trompait, et d'ailleurs, peut-être que c'était bien aussi.
Oui, peut-être.
On demandait à son voisin.
Bon. Parfois, se perdre, c'est pas mal.
D'ailleurs, je pense que ça sera un des produits futurs, ça.
C'est-à-dire renouer
oui,
avec...
Oui, on va payer pour se perdre, si je peux dire. Ça va devenir un service à rendre aux gens.
Mais comment vous le voyez,
non,
ça?
Non, mais il y a des étudiants designers à un moment donné qui travaillaient sur ces sujets. Comment, par exemple, vous pouvez faire des monstres qui vous donnent une fausse heure, hein? Vous voyez, il va falloir avoir des services spéciaux pour vous faire arriver en retard. Vous voyez, c'est un peu pervers.
Ah oui, c'est un peu pervers, oui.
Il y aura des services pour ça.
Ah oui,
vous voyez, pour vous décrocher, en quelque sorte.
Mais pourquoi? Parce que vous pensez que avec tous ces nouveaux services de mobilité, on a gagné du temps. C'est fini l'attente. Ou est-ce que ce temps devient un temps utile,
oui,
un temps de...
Oui. Enfin, ça c'est vraiment une question très importante. Hein. La question est-ce qu'il s'agit d'optimiser, disons. Hein. Bon, est-ce qu'il s'agit de pas perdre de temps, d'utiliser au maximum son temps. Bon, ça c'est une chose. Mais ça voudrait dire qu'on va de plus en plus vite quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on ne perd plus une minute. Alors il y a ça d'un côté, il y a cette espèce d'augmentation de la performance, disons. Hein. Mais il y a aussi autre chose que je crois qui est en train de venir et qui me fait penser que la mobilité, nous ne sommes qu'au début. Hein. La vie mobile, il faudrait plutôt dire aujourd'hui la vie mobile que la mobilité, c'est ça le vrai concept. La vie mobile, nous commençons seulement à rentrer dans une civilisation de la vie mobile dans laquelle on va se détendre dans la mobilité. Et alors que la mobilité, c'est plutôt une tension, plutôt une rapidité, une vitesse. On va pouvoir être détendu en mouvement.
Est-ce qu'on va pas davantage travailler, le télétravail permet de travailler en mobilité? Est-ce que ce gain de temps, on va pas l'utiliser pour travailler?
Oui, mais toutes ces évolutions sont en même temps. Et nous sommes à un moment où tout évolue en même temps. Le travail est en train d'évoluer considérablement. Qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui? Il n'est pas du tout la même chose qu'il y a quelques années. Donc le travail est en train de changer. L'articulation entre le travail et le non-travail, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, mais tout ça est en train. Toutes ces frontières sont en train de bouger. Les paradigmes craquent de partout, si je peux dire. Hein. Pas seulement celui de la mobilité, celui de l'habitat. Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Il y a des tas de trucs qui sont en train de se transformer. Et il est intéressant en termes de prospective de voir les cadres généraux dans lesquels tout ça est en train de se passer, et c'est le cadre général de la vie urbaine d'ailleurs qui est en train de se transformer, et en tout cas on est en train de passer d'un concept de transport qui était associé à l'urbanisme à l'ancienne. L'urbanisme à l'ancienne, c'était ici on dort, ici on travaille, ici on achète et ici on s'amuse. Hein. Et le transport, c'était la manière de relier tout ça. Tout ça est en train de se transformer.
Ça va être totalement bouleversé par l'arrivée, l'essor de la voiture autonome.
Oui, la voiture autonome.
On va pouvoir travailler.
La voiture autonome, avant même, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'avant même qu'elle arrive, parce qu'elle ne va pas arriver tout de suite, mais avant même qu'elle arrive, elle a déjà un puissant effet conceptuel, si je puis dire. Elle nous amène à penser autrement. Il y a déjà des gens qui disent, moi-même je le dis aussi d'ailleurs, que c'est assez amusant que le stationnement va disparaître. Ou alors on va avoir un concept assez paradoxal du stationnement mobile. Vous voyez, comme on a des mots déjà bizarres.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, stationnement
mobile? Bureau mobile aussi, hein, c'est souvent ce qui revient quand on évoque la voiture autonome.
La voiture autonome nous force déjà, enfin nous invite en tout cas déjà, à changer nos concepts. La notion de stationnement va changer, la notion de bureau va changer, et même avant qu'elle arrive. Même si elle n'arrive pas tout de suite et même si elle n'envahit pas tout le marché, d'ores et déjà, elle nous aide à basculer les paradigmes et à ne plus opposer le lieu et la mobilité. On va inventer le lieu mobile, ce qui est un. Enfin, moi, j'utilise ces mots précisément parce qu'ils sont paradoxaux. Ces paradoxes nous indiquent les directions d'innovation. Hein.
Ouais.
On ne sait pas exactement tout ce que ça veut dire, mais d'ores et déjà, l'idée que le lieu et le mouvement sont opposés sont comme deux. Eh ben, cette idée-là commence à bouger. Lieu et mouvement ne sont plus opposés. Alors c'est un peu déstabilisant, vous savez, toute cette notion-là. Mais c'est ça dans quoi nous rentrons.
Alors pour revenir sur cette idée de transport de demain serait le corps humain, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que en fait le corps humain en mobilité, et en fait on est déjà augmenté par nos objets, on devient le... Non, j'arrive pas à l'expliquer. En fait, vous allez devoir m'aider.
Ouais. Non, c'est le corps. D'abord, il faut dire... plus simplement, d'abord que le centre de l'ensemble du système de mobilité devient désormais la personne, tout simplement. Donc c'est la personne mobile. Le successeur de l'automobile, c'est la personne mobile. Bon, oui, c'est ça. D'ailleurs, l'automobile, ça voulait rien dire. Hein. C'était un mot bizarre. L'automobile n'a jamais été auto, puisqu'il y avait un conducteur.
Oui, c'est vrai.
Bon, donc désormais, le vrai automobile, c'est la personne mobile. Donc nous rentrons dans l'ère de la personne mobile. Cette personne mobile, elle a un corps. Et je dis le corps parce que si vous regardez ce qui se passe dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de travaux sur le cerveau, bien sûr. Mm-hmm. C'est ça, les nouvelles sciences, les sciences du cerveau et du corps en général. Nous découvrons que le corps a des potentialités exceptionnelles. Le monde de la chorégraphie, de la danse, par exemple, est très intéressant pour ça. Le corps, nous découvrons le corps humain, voilà. Et non seulement nous le découvrons, mais nous sommes dans une orientation du corps augmenté, disons. Hein. Et même, il y a tous les fantasmes, et même les horizons inquiétants du transhumanisme. Que devient le corps humain?
Même de la téléportation dans quelques siècles.
Oui, donc on rentre déjà dans une image différente. Le corps devient un des objets de connaissance et de technologie puissante. C'est la technologie du corps qui va devenir de plus en plus la technologie de pointe. Et donc ce corps-là va devenir le centre de tous les soins et de toutes les politiques d'offre de services.
Alors vous qui observez énormément les différents modes de mobilité, il y a un courant, il y a une tendance qui est en train de sortir en ce moment, c'est la mobilité à la demande. On a Constance Guyon qui avait évoqué l'exemple de MAS, qui est un service finlandais de mobilité mensuelle personnalisée, à savoir que si je suis un homme d'affaires, je vais pouvoir avoir une formule 100% taxi, et si je suis un père de famille, je vais pouvoir louer un véhicule avec siège enfant. Est-ce que vous pensez qu'on va vers ça ?
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est précisément ça l'idée que désormais, on ne parle plus de transport. Le transport, ça voulait dire j'ai des trains et des bus propres, réguliers et à l'heure. C'est centré autour des flux et des véhicules. La nouvelle conception est centrée sur la personne. Donc chacun a sa propre mobilité. Oui, au fond, c'est ça. Chacun, en fonction de ses désirs, de sa richesse, de son âge, de ses goûts, a sa mobilité. Chacun a son profil mobilité. Et ce profil, d'ailleurs, n'est pas le même tous les jours. Je peux ne pas avoir les mêmes comportements de jour en jour. Les Québécois, ils appellent ça le cocktail mobilité. Je trouve ça très rigolo. Donc, chacun a son cocktail mobilité différent. Et l'offre de service, c'est ça. Offrir à chacun un cocktail, un bouquet variable selon non seulement les personnes, mais même les jours. Et ce sera ça la vraie politique de service. C'est pas de dire je fais du train, du métro ou du bus. Je vous offre à vous une carte, un menu valable pour la journée presque.
Et ben demain le cocktail de mobilité.
Merci Jean-Lamar.
Merci beaucoup Jean-Lamar. Merci à
vous. Et vous restez avec nous. L'atelier numérique à suite dans un instant sur BFM Business et ce sera notre dossier et notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre French Tech Tour. On dressera le bilan du premier anniversaire de la French Tech Côte d'Azur avec notre invité. Mais auparavant, notre dossier de l'atelier US. Pauline Cantner, vous avez rencontré en fait le fondateur d'une start-up qui a été rachetée par Facebook l'année dernière en 2015 et qui est à l'origine des fameux bots de Messenger, Pauline.
Oui François, alors cette semaine on va parler de robots conversationnels, les fameux chatbots. J'ai la chance d'être aux côtés d'Alex Lebrun, qui est le cofondateur de 8.ai, qui est une startup qui a été rachetée par Facebook il y a un an et demi. Dans un premier temps, Alex, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, revenir sur votre parcours ?
Oui, bonjour. Donc je m'appelle Alexandre Lebrun, j'ai créé Virtuose en 2002. Société d'agents virtuels intelligents pour le service client. Dans ce cadre, on a levé des fonds et on est venu aux États-Unis en 2008 avant de vendre l'entreprise fin 2012. Et juste après, j'ai créé 8.ai, une plateforme qui permet aux développeurs de créer très facilement des applications qui comprennent le langage humain, donc parlé ou écrit, et société qu'on a vendue à Facebook il y a un an et demi environ.
Quel problème venait solutionner 8.ai ? Originalement, quand vous l'avez créé, vous souhaitiez résoudre quel pain, comme on dit en anglais ?
Alors, on voyait des développeurs autour de nous créer de plus en plus d'apps qui devaient comprendre, un peu comme Siri le fait, comprendre ce que les gens disent, ce que l'utilisateur veut, quand il s'exprime en français, en anglais, en espagnol. Et c'est un problème assez complexe à résoudre. Avec cette plateforme, on permettait aux développeurs, en quelques minutes, en fait, d'entraîner leur application pour comprendre des commandes orales ou écrites.
Alors, les bots fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
Alors, l'intelligence artificielle, ou machine learning, c'est une technique de programmation. En programmation classique, si vous voulez convertir des Celsius en Fahrenheit, vous allez fournir la formule à l'ordinateur et lui dire tu prends la température en Celsius, tu enlèves, tu rajoutes 36, tu multiplies par 2, etc. Et voilà le résultat que tu vas obtenir. Donc ça marche bien, c'est simple, mais il faut connaître la formule. À l'opposé, en machine learning, on va donner à l'ordinateur beaucoup d'exemples de quand la température en Celsius vaut tant, le Fahrenheit vaut tant, etc., etc. On va lui donner une cinquantaine d'exemples peut-être. Et basé uniquement sur ces exemples, l'ordinateur va construire un modèle qui va lui permettre, avec, quand on lui fournit une nouvelle température, de déterminer la température en Fahrenheit. Donc l'ordinateur va apprendre tout seul le programme au lieu de recevoir un programme déjà fait de l'humain.
Pour un petit peu mieux comprendre, quel rôle joue exactement l'intelligence artificielle dans les chatbots et les robots conversationnels ?
Alors la première chose en fait, si par exemple vous dites à un robot réserve-moi une table pour deux demain soir à Evia, le robot doit comprendre qu'il s'agit d'une réservation restaurant, que le nom du restaurant c'est Evia, que la date c'est le 22 mai et que le nombre de personnes c'est deux. Donc voilà ce que fait principalement l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de comprendre votre intention.
Et si on se prêtait à rêver un petit peu, que devrait permettre l'intelligence artificielle d'ici, je sais pas, 5 à 10 ans par exemple ?
En fait, notre but, c'est de rendre votre vie plus simple, plus facile, et de vous libérer du temps pour faire les choses qui comptent vraiment. Et donc, imaginez tout ce que vous pourriez aujourd'hui déléguer si vous aviez une infinité d'assistants personnels, professionnels et personnels. Toutes ces choses qui vous intéressent pas, que vous voudriez faire, c'est ce qu'on essaye d'automatiser avec l'intelligence artificielle.
Alors au dernier F8, qui est la grande conférence annuelle où Facebook fait ses dernières annonces, donc Facebook annonçait la création de Bots for Messenger, une plateforme qui permet aux développeurs de créer des bots. Qu'est-ce que ça va changer pour nous en tant que consommateurs, notre rapport aux marques et peut-être dans notre vie de tous les jours ?
Alors je en tant que consommateur, je ne sais pas si vous adorez téléphoner à un call center et parce que vous avez un problème ou une question à poser. Je pense que ces bots vont permettre d'abord d'avoir une interaction textuelle au lieu de téléphonique avec les marques et que c'est un gain de qualité. Et d'autre part, vous permettront d'avoir accès à la marque, à l'entreprise jour et nuit sans attente. Et enfin, pour l'entreprise, en automatisant le grand volume des choses fréquentes et simples, ça lui permettra de réserver ses conseillers humains pour les questions, les problèmes à vraie valeur ajoutée. Et donc votre qualité de service en sera augmentée.
Donc c'est pas la fin du service client comme on le connaît aujourd'hui.
Non, au contraire, c'est le recentrage du service client vers des tâches à haute valeur ajoutée.
Est-ce qu'on va pas se noyer sous tous les bots ?
On a le temps avant ça, on a le temps.
Est-ce qu'on aura toujours le droit de dire non ? Je veux pas de robot conversationnel dans ma vie.
Oui, bien sûr, on a le droit.
À force de converser avec ces bots, les bots me connaissent mieux, savent que j'ai réservé tel et tel restaurant à telle heure ou que j'ai fait la commande de tel produit via telle marque. Ça veut dire qu'on collecte aussi beaucoup de données sur moi. Qu'est-ce qu'on doit en penser de tout ça ?
Alors, c'est pas différent de ce que fait ton téléphone ou tes apps aujourd'hui, d'abord. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'être transparent, de dire, voilà ce que je sais sur toi. Est-ce que j'ai le droit de me souvenir de ça ou non ? Est-ce que j'ai le droit de le partager ou pas ? Etc. Donc, en fait, avec un bot, on va essayer de construire une relation de confiance avec l'utilisateur, de pas lui demander trop de choses au début, de toujours lui demander son avis quand on mémorise une information. Et de plus on se connaît, plus le bot est utile, plus il va se permettre de mémoriser des choses pour que la relation soit équilibrée, un peu en fait comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Qu'est-ce qui vous occupe ? On va dire quels sont vos challenges aujourd'hui sur 8.ai ?
Alors on a pas mal résolu la partie compréhension, donc quand vous dites quelque chose que doit faire le robot. Maintenant on travaille sur la partie exécution qui est ok, je dois faire cette réservation ou je dois faire cette tâche, comment l'automatiser, comment la réaliser.
Merci beaucoup Alex Lebrun, je rappelle que vous êtes le fondateur de 8.ai.
Merci.
Pauline Kantner, merci et place à notre French Tech Tour après la Silicon Valley, direction la Côte d'Azur, Aurore Géraud.
Oui,
c'est pas mal.
Ouais,
aussi.
C'est pas mal aussi, c'est un peu notre Silicon Valley à nous en matière de température et climat. Et avec nous pour en parler, Fabrice Moisan qui est donc cofondateur de la French Tech Côte d'Azur et PDG de Gaia Tech. Bonjour Fabrice.
Bonjour, alors déjà, je ne suis pas cofondateur, je suis co-président de la French Tech Côte d'Azur.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de votre labellisation ?
Donc, en fait, la labellisation sur French Tech Côte d'Azur, elle est récente, elle date d'un an. Elle est un petit peu en retard par rapport à d'autres French Tech. La raison, c'est que c'est une jolie région, mais qui est un petit peu complexe, parce qu'elle comprend en fait métropoles avec leur spécificité, que ce soit historique mais aussi économique. Donc vous avez Nice, vous avez Sophia Antipolis, Antibes, vous avez Cannes et Grasse. Donc il a fallu un petit peu de temps pour rassembler en fait les forces vives, pour leur permettre d'avoir un dossier qui soit cohérent. Donc ça a pris un peu de temps, mais il y a un an on a pu avoir cette labellisation, et puis depuis on a continué et on a mis en place des structures qui sont intéressantes. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, c'est quand même sur cette région, il y a nous avons dans le domaine du numérique plus de 22 000 emplois. Donc même si on pense Côte d'Azur, soleil, tourisme, et Farniente, il y a beaucoup d'emplois dans le numérique, parce que historiquement avec Sophia Antipolis, ça a attiré non seulement des entreprises et puis un écosystème d'universités, de centres de recherche qui permet ce dynamisme. Voilà, donc c'est aussi dans le domaine du numérique 338 startups qui ont plus ou moins été créées entre 2012 et 2014. Donc ça fait quand même pas mal d'activités. Et pour vous donner un dernier chiffre sur l'année 2015, c'est 144 millions d'euros de levée en termes de fonds. Donc c'est, je pense que c'est après la région parisienne la deuxième valeur en termes de levée de fonds pour les startups. Voilà. Et autrement, c'est varié. L'activité est variée, donc il y a beaucoup de...
Oui, j'allais dire, quels sont vos terrains d'expérimentation, quels sont vos éléments différenciants par rapport à d'autres labellisés?
Alors, on pourrait y passer des heures.
Alors, il nous reste 40 secondes, c'est ça le souci.
Donc, nous avons retenu plusieurs domaines d'expertise. En fait, on en a retenu 6, qui sont les EdTech, la e-énergie, la e-santé... le tech sport la e-énergie, j'en ai déjà parlé, le e-tourisme et smart city cybersécurité. Voilà. Donc c'est dans ces domaines d'activité où vous avez la plus grosse concentration de start-up adossées à des universités et l'INRIA qui à Sophia Antipolis, qui a d'ailleurs le seul centre de recherche européen de World Wide Web, donc qui travaille dans tous les domaines de l'internet. Donc tout ça fait que avec ces 6 thématiques, on retient quand même à peu près la moitié des startups, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Donc ce sont les axes de développement opérationnel, travailler autour de ces thématiques, et puis essayer de collaborer avec d'autres startups dans d'autres régions. Voilà.
Et est-ce que vous auriez des exemples de pépites qui viennent de la Côte d'Azur?
Alors, on a une grosse pépite qui est à la fois de Côte d'Azur et de Paris, c'est Quant. Donc Quant,
le moteur de recherche, oui.
Le moteur de recherche, tout le siège social de Quant est à Paris, mais en fait toutes les équipes de R&D de Quant sont sur Nice. Donc c'est un bel exemple de financement par la BEI l'année dernière et puis de développement. Donc je dirais que c'est Quant est un peu le leader de ces entreprises, comme Vulog aussi. Vulog, c'est une société qui est dans le domaine de la voiture connectée, une émanation de l'INRIA, qui vient de prendre des marchés au Canada, et puis qui équipe d'ailleurs la flotte de véhicules de la mairie de Paris avec ses systèmes de connexion mobile. Et d'ailleurs, Vulog a levé l'année dernière plusieurs millions d'euros. Wide Mocha, qui est une société qui travaille dans le domaine de la vidéo et du double écran télé, donc qui vous permet à la fois de suivre un programme sur vos télés, mais aussi en parallèle de rentrer, de faire de l'arrêt sur image et puis d'échanger par blog. Donc Wide Mocha, c'est des partenariats Canal+ ou avec Fox aux US.
Parfait, merci beaucoup Fabrice.
Merci pour votre petit détour et votre écosystème si passionnant.
Et voilà, et plein de soleil, puisque en plus, on est dans une région très sympa. Merci beaucoup Fabrice Moisan.
Merci.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Ce sera avec la rédaction de zeronet.com, bien sûr, comme chaque samedi. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Avant de se dire au revoir, avant de retrouver le crash test d'Antoine Cyr et puis Guillaume de Groisse aussi de l'atelier dans quelques instants. Direction la rédaction de 01net.com avec Éric Le Bourlou, toujours fidèle au poste en ce samedi après-midi. Bonjour Éric.
Bonjour.
Rédacteur en chef donc de 01net.com. Et on va commencer par un événement qui s'est déroulé en Asie, à Taïwan plus précisément. C'est le Computex, rendez-vous de geek, hein, de fans d'informatique. Oui. Mais de temps en temps, il y a quelques petites pépites qui ressortent et qui valent le coup d'être évoquées ici.
Exactement, c'est un salon vraiment matos, hein, beaucoup de matériel, beaucoup de PC, etc. Et effectivement, lors de ce salon, c'est Asus qui était à domicile, qui a présenté plein de produits, qui a fait sa grosse conférence de presse là-bas, mais qui a surtout présenté un produit assez particulier, on va dire même assez surprenant de la part d'Asus, qui est habitué à faire plutôt des choses du genre smartphone, ordinateur portable, finalement des produits assez classiques. Asus a présenté tout simplement un robot domestique.
Et personne ne s'y attendait. Hein.
Personne ne s'y attendait. Voilà, ouais, c'était là, un peu le one more thing.
Garder
le secret. Un robot domestique assez mignon, qui a vaguement une forme humanoïde. Hein. C'est un robot sur roue, mais qui a une tablette comme tête, une tablette tactile. Et qui donc simule un visage
très sympa,
très sympathique. Voilà. Il ressemble un petit peu à E.T., un petit peu à Wall-E. Enfin bon,
il ressemble surtout à Buddy.
Exactement.
Qui est un robot issu d'une start-up française.
Exactement. Il ressemble beaucoup à celui-là.
Il y a d'énormes similitudes.
En effet. Et effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'une marque d'importance comme Asus se lance dans la robotique comme ça domestique, parce que c'est un robot contrairement à celui de d'Aldébaran, maintenant SoftBank, comme Pepper, qu'on va voir maintenant bientôt dans les gares, dans les hôpitaux, pourquoi pas. Là, c'est un robot qu'on a à domicile. C'est un robot qui a été fait pour que vous l'achetiez dans un magasin et que vous le passiez chez vous et qui devienne votre robot compagnon. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire beaucoup de choses. Il peut évidemment reconnaître tous les membres de la famille. Vous pouvez interagir avec lui par le biais de commandes vocales, type OK Google. Alors, ce sera pas OK Google, mais il faut dire Eisenbo, mais ce sera à peu près la même chose. Vous pourrez donc lui demander tout ce que vous voulez. Il se déplacera de façon autonome dans votre appartement ou votre maison et pourra faire aussi de la vidéosurveillance, pourra s'occuper par exemple des personnes âgées aussi si il voit qu'une personne âgée a un malaise par exemple. Mmh. Il y aura une fonction d'appel d'urgence. Il pourra aussi s'occuper en fait un petit peu des enfants en leur proposant des leçons ou en leur racontant des histoires. Bref, c'est un robot compagnon qui va être proposé à un prix qui est assez accessible, même si c'est pas donné, hein, puisque ça va être aux alentours de $600. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement cher, mais
oui,
voilà,
parce
c'est
qu'on sait que le Pepper notamment coûte beaucoup plus cher.
Beaucoup plus cher, ouais. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir une marque comme celle-ci arriver sur un secteur qui pour l'instant est un marché qui n'existe pas. Hein. Pour l'instant, les robots, ce sont des aspirateurs, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de robots compagnons. Mm-hmm. Et effectivement, il rentre en concurrence avec une petite start-up française qui s'appelle Blue Frog Robotics, si je ne m'abuse, et effectivement qui est un robot extrêmement similaire aux fonctions similaires qui va aussi arriver à la fin de l'année.
Voilà, à suivre donc. Hein. Ouais. On est peut-être en train d'assister à la naissance de nouveaux robots et de compagnons qui pourront peut-être être chez nous dans quelques années.
Alors après, le problème, c'est est-ce qu'il va avoir une killer application, vous voulez vraiment acheter ce robot, mais pourquoi? Il fait beaucoup de choses, mais est-ce que ça suffira pour vraiment craquer?
Voilà, qui débarrasse la table, par exemple. Mais ouais,
ça, c'est pas pour tout de suite.
Hein. Ça sera un petit peu plus compliqué. On enchaîne avec Apple maintenant. Une information qui plane un petit peu sur le web concernant le rythme de renouvellement des iPhones, qui rappelons-le aujourd'hui d'un nouvel iPhone tous les 2 ans, même si un iPhone tous les ans, mais on sait que tous les 2 ans il y a un nouvel iPhone avec un nouveau châssis, etc. Mm-hmm. Et puis entre deux, voilà, cet iPhone-là est un petit peu boosté.
Exactement,
on lui
rajoute
quelques petites fonctionnalités.
Quoi, la version S pour speed, la version, on va dire, un peu évoluée de celui de l'année précédente. Eh ben, ça pourrait changer parce que effectivement, d'après les informations d'un journal japonais assez sérieux, Apple serait en train de ralentir le rythme sur l'iPhone. Et ça pourrait arriver dès cette année en fait, avec l'iPhone, on ne sait pas comment il va s'appeler, sans doute 7, mais on ne sait pas encore. L'iPhone qui devrait sortir cette année ne serait finalement qu'une évolution et pas un vrai changement par rapport à l'iPhone iPhone qui a été lancé l'année dernière. Et donc Apple ensuite ne changerait pas de design et ne pratiquerait pas de grosses révolutions, de changements d'importance sur son téléphone que tous les 3 ans plutôt que 2 ans aujourd'hui.
Alors question, pourquoi ?
Parce
qu'aujourd'hui, ce rythme est plutôt positif pour eux.
C'est vrai.
Ça leur permet de relancer les ventes tous les 2 ans, etc.
C'est vrai, mais en même temps, il y a moins d'innovation qu'avant sur les smartphones. Maintenant, on est beaucoup plus sur des augmentations incrémentielles de capteurs, de capacité mémoire, Donc, il y a moins de facilité pour Apple d'innover, de changer la donne tous les 2 ans. Et ça, on l'a déjà remarqué. Et ils pourraient faire davantage l'événement, effectivement, avec un nouvel iPhone, s'ils ralentissaient un petit peu la cadence. Et puis aussi, là, pour le coup, pour cette année, il y a une histoire de calendrier. Cette année, ce sera les 9 ans de l'iPhone, mais l'année prochaine, on fêtera les 10 ans de l'iPhone, du premier iPhone.
Et Apple. Et peut-être qu'Apple veut marquer le coup, justement.
Apple voudrait sans doute marquer le coup pour les 10 ans de l'iPhone. Il va falloir sans doute, mettre le turbo.
Ouais.
Et donc.
Tout mettre sur la table.
tout mettre sur la table. Donc, effectivement, ça colle aussi avec éventuellement une attente un peu pour le prochain iPhone en 2017 qui devrait être beaucoup plus, avec un nouvel écran, un écran OLED. Que les autres ont déjà adopté, beaucoup de choses, mais vraiment une vraie évolution pour l'iPhone de l'année prochaine, donc pas celui qui arrive cette année.
Alors pour l'instant, tout ça, ce ne sont que des rumeurs.
Oui,
on verra si c'est le cas en septembre prochain.
Exactement.
Puisqu'il y aura de tous les cas
un nouvel iPhone. Oui.
On enchaîne maintenant avec Boulanger. Alors le Boulanger, vous le savez, c'est le distributeur de produits high-tech qui a eu une très bonne idée en proposant un site qui s'appelle Happy 3D.
Exactement. Alors Boulanger le présente comme une première mondiale et c'est bien possible. On en avait en tout cas jamais entendu parler avant. C'est la première fois qu'un distributeur propose un site sur lequel vous allez pouvoir télécharger des pièces du matériel qu'il vend sous ses marques distributeurs. C'est pas pour toutes les marques, c'est pour vraiment le matériel qu'il vend sous ses marques.
Et par exemple, j'ai acheté un grille-pain Boulanger, je casse le petit bouton poussoir.
Exactement. Ben vous pouvez aller sur Happy 3D, télécharger le modèle 3D de ce bouton qui est cassé. L'imprimer, alors par les moyens que vous voulez, si vous n'avez pas d'imprimante 3D chez vous, vous pouvez très facilement aller dans un hackerspace, ou alors le demander en ligne à quelqu'un qui en a une. Imprimer ce bouton et le remplacer vous-même sans avoir à changer votre matériel entièrement pour réparer votre grille-pain. Alors ça marche pour plein de choses. Il y a plusieurs centaines de références déjà de matériel de rechange sur ce site. Et c'est vraiment une première. C'est une vraie utilisation de l'impression 3D pour le coup qui est utile.
Et puis peut-être aussi économique, parce que on peut imaginer. Enfin, ça arrange tout le monde.
Exactement.
Ça fait du stock en moins pour Boulanger, et puis pour nous consommateurs, ça nous permet de retrouver une pièce qui nous manque très facilement.
Voilà. Et puis c'est vrai que pour la marque, c'est un joli coup de com aussi, parce que c'est vrai que ça les place en marque de geek, on va dire. Et puis écolo. C'est
l'un des tout premiers à faire ça.
A priori, c'est le premier distributeur à le faire. Ouais. Donc ce qu'ils espèrent maintenant, c'est que ils l'ont fait avec leur propre matériel, mais ils espèrent maintenant séduire d'autres marques peut-être plus connues pour aussi qu'ils fournissent les plans 3D des pièces de rechange pour leur électroménager, pour l'électronique, etc.
Voilà. Ainsi, saluer donc cette initiative signée Boulanger. On enchaîne maintenant avec les PC. Attention, si vous avez un PC, il faut peut-être faire gaffe aux logiciels qui sont préinstallés sur votre PC et qu'on a la plupart du temps. Aujourd'hui, on achète un PC HP, Lenovo, Acer, Asus, etc. On se retrouve avec toute une ribambelle d'offres logicielles parce que la plupart du temps, après, on vous demande de passer à la caisse, etc.
Ouais.
Il faut faire attention à tout ça.
On appelle ça des bloatware. C'est un peu des logiciels où vous voulez pas forcément, mais ils sont quand même livrés avec votre ordinateur.
Oui, parce que ces éditeurs paient.
Exactement.
Le constructeur
pour pouvoir être intégré,
pour figurer, et c'est aussi pour ça qu'on trouve parfois des PC à pas cher.
Exactement.
Voilà. Ils sont subventionnés par
ces logiciels supplémentaires. Le problème, c'est que ces logiciels, donc, en plus, ils sont un petit peu ennuyeux parfois. Ils s'installent dans votre barre des tâches. Vous savez pas comment les installer. Mais ils sont non seulement ennuyeux, mais ils peuvent être en plus dangereux pour votre sécurité. Pourquoi ? Parce que tous ces logiciels sont supportés. Leur mise à jour est supportée par un petit programme qui est installé d'office dans le PC et qui va de télécharger les mises à jour de ces logiciels en tâche de fond, sans même que vous vous en rendiez compte. Le seul petit souci, c'est que ce programme de téléchargement n'est absolument pas sécurisé. Par exemple, les communications ne sont pas chiffrées. Il est facile pour un pirate, très facile même pour un hacker, pas forcément un hacker de génie, hein, mais de
avec les bons outils,
de faire croire que plutôt que de télécharger une mise à jour logicielle classique, alors que vous téléchargez en véritablement un virus, un malware, qui va venir s'installer normalement, sans problème, sur votre machine, sans que vous n'y voyez rien.
Et qui va infecter votre PC.
Alors, ça peut se faire dans des conditions particulières, notamment, par exemple, si vous êtes sur le même réseau qu'un pirate, mais encore une fois, il est très facile pour un hacker de pénétrer un réseau pas très bien sécurisé, donc c'est assez faisable. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ces logiciels préinstallés sur son ordinateur. Est-ce qu'on peut conseiller, nous, c'est, s'il est possible de le faire, c'est de désinstaller au plus vite ces logiciels de mise à jour, qui sont en fait une vraie plaie, quoi, on peut le dire.
D'accord, donc on laisse tomber.
Ouais, on essaye au plus possible de ne pas les utiliser.
C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, hein, quand même. Hein.
Exactement.
On va terminer par la conférence code qui s'est déroulée aux US cette semaine. Voilà, rendez-vous avec pas mal de, on va dire, de
tous
stars.
Les comptes, hein, toutes les stars y étaient. Ouais. Toutes les stars de la Silicon Valley.
Elon Musk y était.
Ouais. Hein,
l'inventeur génial de PayPal, de Tesla, etc., de SpaceX, d'Hyperloop. Ouais. Et il a parlé de jeux vidéo d'une drôle de manière.
Oui.
Cette semaine.
Bah, c'est un vrai fan de jeux vidéo aussi, Elon Musk, hein.
C'est un vrai geek. Dans toute sa puissance.
C'est un vrai geek. Et alors, répondant à une question, lors de la séance de questions-réponses, on lui a simplement posé une question un petit peu farfelue. On lui a demandé si lui pouvait croire que, nous tous, là, toute l'humanité, ce qu'on vit, est-ce que, il pouvait penser, que nous étions en fait dans une simulation informatique, vous savez, un peu à la Matrix finalement. Est-ce que ce que nous vivions n'était pas finalement
l'œuvre d'un gros ordinateur.
Voilà.
Mais ça fait stresser, hein,
c'est un petit peu stressant, ouais. Alors ils ont un petit peu rigolé au début, mais finalement il a vite repris son sérieux, Elon Musk, et puis il a dit ouais, mais c'est bien possible finalement, pourquoi pas, ouais, c'est bien possible et j'y crois. Il est fort probable que nous soyons dans une simulation informatique. Alors pour appuyer ses propos, il a simplement pris l'évolution du jeu vidéo depuis 30 ans, hein, puisque on se rappelle des premiers jeux vidéo, et c'est ce qu'il nous a dit. Il dit voilà, regardez, il y a 30 ans, le jeu vidéo c'était Pong, hein, c'était trois carrés et deux raquettes, et regardez où en sont les jeux vidéo aujourd'hui. Où en est l'intelligence artificielle aujourd'hui? Maintenant, on a des jeux vidéo photoréalistes. On s'attend, pourquoi pas, dans les années qui viennent.
Et les progrès vont être exponentiels.
Voilà. Alors, c'est ce qu'il a dit. C'est qu'on va continuer à progresser très vite. Alors, je vois pas pourquoi, dans quelques années, on arriverait peut-être à ne plus différencier le réel du virtuel. Alors, il est possible, effectivement, que nous aussi, nous soyons dans, finalement, un univers virtuel sans le savoir. Bah, on n'espère pas, mais bon, en tout cas, lui, il a l'air d'y croire.
Et peut-être que quelqu'un jouerait et nous piloterait, ouais, comme ça. Ce
serait un peu dur. World of Warcraft.
Le dieu ne serait qu'un gamer, en fait.
Un peu, ouais. C'est une théorie farfelue, mais qui avait déjà été montrée assez brillamment par un philosophe en 2003 déjà. Donc c'est pas la première fois que c'est évoqué.
Ouais, bien
mais
sûr.
Bon, c'est effectivement Elon Musk est fidèle à lui-même.
Voilà, on vous laisse méditer sur cette dernière actualité. Merci beaucoup.
Merci.
Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zéronet.com. Vous restez avec nous, suite et fin de l'atelier dans un instant avec le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi. Dans un instant, le crash test d'Antoine. Il sera question de bande dessinée. Mais auparavant, j'accueille Guillaume Degroise dans ce studio de l'atelier. Bonjour Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Guillaume, on va parler aujourd'hui de voitures électriques et finalement, face aux Américains, nous, petits Frenchies, on n'est pas si mauvais que ça. Hein.
Exactement, mon cher François. Alors, vous avez peut-être vu passer cette nouvelle cette semaine, malgré les grèves, la pluie, les annulations de matchs à Roland-Garros, la RATP a annoncé la mise en service de son premier Blue Bus électrique. Un bus coûtant quand même la bagatelle de 500 000 euros, soit le double d'un bus diesel classique, mais qui montre l'engagement de la RATP et du STIF à mettre en place des transports en commun plus propres à Paris. Alors, si je vous dis Blue Bus, Si je vous dis qu'ils sont équipés d'une batterie Batscap assemblée dans le Finistère, François.
Bah, c'est deux indications qui nous font bien sûr penser à Monsieur Bolloré, le roi de l'électrique.
Exactement, mon cher François. Monsieur Bolloré, dont les Blue Cars, immatriculés dans le Finistère, assurent depuis 2012 le service Autolib à Paris, mais aussi depuis à Bordeaux ou à Lyon. Alors, au-delà de l'intérêt écologique que la RATP ou plusieurs grandes villes trouvent à installer des services de transport électrique, il est intéressant de voir l'aventure industrielle du groupe Bolloré derrière tout ça. Dès 2001, Bolloré investit une part importante de sa R&D dans la création de batteries électriques via la société Batscap, qui s'appelle aujourd'hui Blue Solution, et qui regroupe l'ensemble des activités autour du stockage électrique du groupe. Pour vous donner quelques chiffres, si on en croit le groupe Bolloré, Blue Solution regroupe aujourd'hui 300 chercheurs, revendique plus de 20 ans de R&D et un investissement de 2 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable. Oui. Alors, si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est que, sans forcément trop de tambours et de trompettes, Bolloré commence tout doucement à se positionner sur un marché qui n'est pas celui des moyens de transport électrique, mais bien celui du stockage de l'énergie électrique. Et là, tout vous semble clair, cher François, Bolloré et Elon Musk, rien de moins, se tirent la bourre en utilisant la voiture et le transport comme bac à sable.
Oui, mais attention, quand même, Guillaume. Entre une Tesla, d'accord, et une Blue Car et Autolib, il y a quand même quelques différences.
Alors, c'est une bonne remarque, cher François, et je reconnais là votre goût du design et des produits Made in California.
C'est vrai.
Mais la méthode Elon Musk est très très différente de celle de Bolloré, car il lui faut séduire des investisseurs et faire ses preuves. Lorsqu'il fonde Tesla Motors en 2003, il lui faut des investissements considérables pour essayer de lancer une voiture qui ne peut être que très haut de gamme, au design et aux performances bluffantes, pour essayer de pénétrer un marché automobile américain qui est plus que mature. Et c'est toute la stratégie de Musk de faire des coups incroyables, de jouer de la com, de rendre sa marque désirable, qui fait qu'il est toujours à flot aujourd'hui, malgré des pertes importantes. Hein, on parle quand même de 200 millions de dollars de pertes nettes l'an dernier. Il va ouvrir sa Gigafactory pour la production de batteries d'ici quelques semaines, et il a dévoilé l'an dernier le vrai but de son entreprise, pas d'être un fabricant de voitures, mais bien de batteries, hein, en dévoilant le Tesla Powerwall à destination des ménages et des entreprises. Alors effectivement, en termes de chiffres, l'aventure de Bolloré et celle de Tesla sont pas tout à fait comparables. À un détail près, hein, Bolloré revendique 2 milliards d'investissements et Tesla, malgré sa valorisation à 30 milliards, compte 2 milliards de fonds levés. C'est à peine plus, mais ça en fait quand même la coqueluche du Nasdaq. Alors, Bolloré peut-il vraiment se battre contre Musk ? Un groupe industriel français qui fabrique des petites bagnoles pour les municipalités peut-il rivaliser avec Tesla, qui est désormais cité en exemple comme le premier disrupteur des automobiles aux US ? Difficile à dire. Du coup, mon cher François, je ne sais pas réellement vous dire aujourd'hui qui va gagner. Par contre, l'électricité a de l'avenir et notre champion national, pour reprendre une expression d'un autre temps, n'a pas à rougir devant les vrombissements californiens, puisque le projet Blue Car réussit. Bolloré, avec l'aide de Renault ou de PSA, produit désormais la Blue Summer mais aussi la Imeari. Et surtout, depuis 2013, Bolloré teste son stockage grande capacité à destination des entreprises avec le producteur d'électricité Compagnie Nationale du Rhône.
Eh bien voilà, merci beaucoup Guillaume. On va tout de suite enchaîner donc avec le crash test d'Antoine.
L'atelier numérique sur BFM Business.
On va parler donc de bande dessinée, mais aussi de nouvelles techno.
Exactement, on va en parler avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Scott McCloud. Alors déjà, vous avez vu, le gars, il s'appelle Cloud.
Ah oui, il a bien fait.
Il a bien fait.
Là, il est au top.
Mais c'est absolument involontaire. Il est né en 1960, donc le cloud à l'époque, il y avait déjà des nuages, mais dans le computing,
pas encore.
Hein. Et donc, il se trouve qu'il s'appelle Cloud. Et là, donc Scott McCloud, qui est américain, qui est de Boston, dans le Massachusetts, crée plusieurs séries de bandes dessinées qui sont des séries à succès, et surtout, il va avoir l'idée, en 1993, de créer une bande dessinée qui s'appelle L'Art Invisible, et qui est une bande dessinée qui explique l'art de la bande dessinée. Et donc, qui explique là aussi, on employait à un moment dans cette émission le mot neuronal, il explique presque le fonctionnement neuronal de la bande dessinée.
D'accord.
Évidemment, c'est très intéressant, puisque ce type de recherche existe aussi sur sur tous les gens qui travaillent sur les écrans, sur la façon de faire fonctionner la relation de l'individu avec tous les signaux numériques qui nous sont envoyés. Donc déjà au départ, il y a une certaine convergence de démarches entre celle de Scott McCloud et celle des gens du monde
du numérique.
Voilà. Et donc il va se promener dans tous les États-Unis pour expliquer son ouvrage. Donc là aussi, il y a un côté évangélisateur qui ressemble un peu. On est finalement dans cette période d'évangélisation du net. Donc lui, il va être l'évangélisateur de son ouvrage. Du coup, d'ailleurs, il fait des conférences dans le monde entier sur la bande dessinée. Il va être chargé d'écrire des histoires de Superman. Donc là aussi, bon bah il arrive dans un monde futuriste. Et puis en 1998, donc quand même il y a maintenant presque 20 ans, il lance son site internet et va être un des pionniers des webcomics.
1998. Le débit n'existe pas. Non. On est vraiment aux prémices du web. Hein.
Alors il faut reconnaître que c'est des webcomics qui ont une interactivité qui est extrêmement limitée.
Oui.
À l'époque, mais il c'est quand même des expérimentations sur le format, sur la lecture, qu'il va poursuivre.
Il s'accapare ce média, nouveau média.
Exactement, il s'accapare ce nouveau média et il va faire différentes séries de bandes dessinées qui sont très intéressantes. Par exemple, il va faire une série qui s'appelle The Right Number, qui est pour l'instant inachevé, mais il a dit qu'il travaillait sur la suite, donc on va sans doute la voir arriver. Et puis il fait une série de petites histoires qui s'appelle The Morning Improve, et donc dans ces petites histoires, on les trouve encore aujourd'hui sur son site, hein, donc je vous invite à aller sur le site de Scott McCloud, scottmccloud.com. Par exemple, il y a une histoire qui s'appelle But No One Ever Noticed The Walrus. Donc le Walrus, c'est le morse, hein, c'est comme il y a dans la chanson des Beatles, I am the Walrus. Donc c'est une histoire assez incroyable avec un morse qui est en costume, tout à fait normal,
oui,
qui arrive dans un bureau
et
personne ne le remarque, et en plus le morse a rendez-vous à 10h du matin et tout le monde lui passe sous le nez, personne ne s'occupe de lui, tout le monde l'ignore. Et en plus, il se trouve que, bien entendu, le brave Morse a faim. Et en plus, le bureau en question se trouve pas loin d'une poissonnerie. Et donc, d'un restaurant de poisson.
Ouais.
Et donc, tout le monde est en train de parler du restaurant de poisson. Évidemment, le Morse est affamé. Bon, je vous laisse découvrir la fin de l'histoire. Mais évidemment, c'est assez touchant et assez émouvant. Alors, en 98, il va avoir une expérience qui va être un petit peu moins convaincante, puisqu'il va créer The New Adventures of Abraham Lincoln, qui mélange de manière peu convaincante les dessins traditionnels et des fonds qui sont réalisés par l'ordinateur. L'album va recevoir un mauvais accueil, et d'ailleurs Scott McCloud lui-même parle lui-même de noble échec quand on l'interroge sur cette bande dessinée. N'empêche que toutes les expérimentations de McCloud ont été vues et suivies par les gens de la Silicon Valley, par les mondes de l'Internet.
D'accord.
Et lorsque Google va lancer en 2008 Chrome, c'est
donc le navigateur
qui est aujourd'hui, je crois, le premier navigateur du monde. Je crois qu'il y a un tiers.
Oui, il a dépassé Internet Explorer, Firefox, etc.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des gens dans le monde entier. Donc ça doit inclure, j'imagine, la concurrence des navigateurs chinois et autres.
Mm-hmm.
Hein, il y a plus d'un tiers des gens dans le monde entier qui utilisent Chrome. Et donc, lorsque Google va lancer Chrome, en fait, c'est une bande dessinée de Scott McCloud qui va expliquer sur 38 pages comment fonctionne Chrome.
C'est génial.
Et donc c'est voilà. Donc c'est,
et cette bande, sinon on pouvait la consulter en ligne.
Tout à fait. Donc c'est Scott McCloud qui est à l'origine qui est l'homme qui a lancé, si on peut dire, Chrome, en tout cas, qui a expliqué le premier Chrome. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors aujourd'hui, il travaille aussi sur des livres, hein, parce qu'il croit encore au papier. Donc il vient d'écrire une bande dessinée qui s'appelle Le Sculpteur et qui a été publiée en France en 2015. Donc c'est très récent. Et puis alors donc il a toujours bien entendu son site internet. Et là sur son site internet, il fait la promotion de ses propres œuvres, mais aussi des œuvres des gens qu'il aime bien. Donc par exemple là, il y a une histoire un peu triste qui est apparue récemment sur son site, qui n'est pas un livre qu'il a écrit lui, mais qui est la mention d'un livre écrit par un collègue qui s'appelle Rosalie Lightning et qui est une bande dessinée écrite en hommage par un papa à sa fille qui est morte très jeune. Voilà, donc il y a aussi ce côté émotion qu'on va retrouver sur le site de Scott McCloud.
Voilà, Scott McCloud, on va dire la star de ce crash test.
Et sur lequel, encore une fois, sur son site, vous pouvez trouver toutes ces web bandes dessinées.
Merci beaucoup Antoine, fan de bande dessinée bien sûr. Antoine Cyr, c'est avec Antoine que se termine cet atelier numérique sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouvera bien sûr samedi prochain, vous le savez, 16h-18h. À très vite.